Qui est des Amériques, Marion Cazanov, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, bonjour à tous. Il est 9h10 à Port-au-Prince. Haïti, un mois, jour pour jour après le séisme, le tremblement de terre dans le sud avait fait 2200 morts. Aujourd'hui, des milliers de familles ont toujours besoin d'aide humanitaire alors que les opérations de reconstruction peinent à s'organiser. On restera en Haïti avec cette proposition d'Ariel Henry, le Premier ministre par intérim qui signe un nouvel accord avec des organisations de l'opposition pour, je cite, c'est une gouvernance apaisée et efficace. Décryptage avec Godson Pierre d'Alter Press. Le gouverneur de Californie sur la sellette. Les électeurs sont appelés à voter pour un recall, un référendum pour décider de la destitution ou non du gouverneur. Et puis, le journal des Outre-mer, ce sera avec Benoît Ferrand de nos confrères de La Première. Benoît, vous nous parlerez de la rentrée pour les élèves guadeloupéens et martiniquais.
Rentrée décalée d'une semaine, crise sanitaire oblige, rentrée un peu spéciale avec un peu de présentiel et beaucoup de distanciel comme on dit, ce qui pose évidemment le problème de l'équipement informatique disponible dans les deux départements.
À tout à l'heure Benoît.
L'écaille, 106.9 FM.
Le matin du séisme, j'étais là, sous ce cocotier. Ma femme et deux de nos enfants étaient assis sous la galerie de la maison, et une autre de nos filles dormait à l'intérieur. La terre a commencé à trembler, et la maison s'est effondrée. Ma femme et les enfants se sont sauvés de justesse en sautant de la galerie. Ma fille de 12 ans, elle, était sous les décombres. On la croyait morte. On a crié. J'ai commencé à enlever les gravats pour me frayer un chemin jusqu'à elle. J'ai creusé comme un fou. Mais après 10 minutes, elle a réussi à sortir toute seule des décombres.
Et c'était il y a un mois, jour pour jour, le séisme en Haïti qui faisait 2200 morts, 13 000 blessés et des dizaines de milliers de sinistrés. Des milliers d'habitations ont aussi été détruites et de nombreux Haïtiens dépendent toujours de l'aide humanitaire. Et si le cauchemar du séisme du 12 janvier 2010 a aussitôt surgi dans les esprits, aujourd'hui, il y a tout de même une différence notable au-delà du bilan humain de moindre ampleur, c'est que les régions rurales et enclavées sont les plus touchées. Mais cela rend cette aide humanitaire plus difficile et même plus dangereuse à acheminer. À Port-au-Prince, le dossier d'Amélie Baron.
Pour aller dans le sud depuis Port-au-Prince, il faut traverser le quartier de Martissant qui est contrôlé par les gangs. Dans les premières heures qui ont suivi le séisme, beaucoup d'Haïtiens n'ont pas hésité à prendre ce risque pour se rendre dans les zones sinistrées. C'est cette première aide qui est avant tout saluée aujourd'hui par Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire des Nations Unies.
Il y a eu énormément de solidarité intra-haïtienne, j'appellerais, au niveau des communautés, au niveau des pays, au niveau de la diaspora qui a donner un gros coup d'appui à tout ce qui a été les premiers secours et la phase d'urgence. Il y a eu une grosse mobilisation internationale pour appuyer cette phase. Il y a de très nombreux partenaires qui sont intervenus. Mais là, on est en train petit à petit de changer de dimension et de rentrer de plus en plus dans la phase de ce qu'on appelle le relèvement précoce.
Le gouvernement et notamment le ministère de la Planification devraient prendre le relais pour la longue phase de reconstruction, mais sur le terrain, les équipes de la protection civile continuent d'organiser les distributions d'aide alimentaire. L'argent manque pour financer la logistique, comme le déplore le directeur de l'institution, Jerry Chandler.
Le support que nous avons, c'est le support matériel direct. Là, je parle de kit, je parle de nourriture, je parle de médicaments. Donc ça arrive. Maintenant, il faut pouvoir trouver des ressources pour faire avancer tout ça, l'amener vers les populations pour la distribution. Et c'est cette partie-là qui quand même reste compliquée, parce que le support financier direct est donné au gouvernement directement, mais le gouvernement peine encore à décaisser et à justement et nous donner l'appui qu'il faut pour que nous puissions continuer les opérations. Les vrais coûts pour nous sont justement par rapport au convoi. Il faut pouvoir payer les chauffeurs payés, les manutentionnaires payés, et l'essentiel pour faire fonctionner l'opération. Et aussi et surtout, par exemple, nous avons des coûts additionnels qui sont, par exemple, liés à la sécurité. Il nous faut louer des véhicules additionnels pour avoir un accompagnement de sécurité, avoir la police pour nous accompagner.
Ne pas répéter les erreurs de 2010, ne pas laisser se créer des camps informels. Ça a été le discours des autorités, mais en réalité, selon le dernier rapport du Centre d'opérations d'urgence, plus de 20 000 personnes survivent aujourd'hui dans des camps de fortune.
Là, maintenant, nous sommes en train de prendre des mesures pour pouvoir leur fournir l'essentiel de manière à ce qu'ils puissent regagner leur habitat régulier. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, quand même, nous avons fait un recensement et nous voulons les garder, et je dirais, dans la priorité, de manière à ce que, justement, on puisse freiner le phénomène et le renverser. Maintenant, le but pour nous, c'est de freiner l'hémorragie. Justement, apporter l'essentiel aux gens qui en ont besoin, et parce que là, nous travaillons en milieu rural, donc leur apporter l'aide directement, de manière à ce qu'on puisse éviter qu'ils viennent dans le milieu urbain pour venir chercher et y rester.
Éviter que l'exode rural ne s'aggrave à cause de ce tremblement de terre, un tel phénomène naturel ne devrait pas non plus à chaque fois entraîner une catastrophe humanitaire. Penser planification et gestion des risques, c'est ce pourquoi plaide Bruno Lemarquis, le numéro 2 de l'ONU en Haïti.
Ce tremblement de terre en Haïti, c'est vraiment une fois encore un vibrant rappel pour qu'Haïti s'engage de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus prononcée, y compris au niveau de son leadership politique et sur le long terme, dans ce qu'on appelle la gestion des risques et des désastres. On connaît qu'en Haïti, presque chaque aléa naturel devient une catastrophe, un désastre, ce qui n'est pas le cas chez certains des voisins. Et à chaque fois, ça entraîne des tragédies humaines, des pertes très conséquentes en termes d'infrastructures, des pertes économiques, des pertes en développement humain, les enfants ne vont pas à l'école, les soins de santé ne sont plus fournis, etc. etc. Pour qu'Haïti arrête de toujours avoir affaire à des désastres, il faut qu'Haïti prenne cette problématique de la gestion des risques très au sérieux comme une priorité nationale.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Stéphanie Schuller pour la revue de presse. Un mois après le tremblement de terre en Haïti, le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation post-séisme ne fait plus les grands titres de la presse haïtienne.
Oui, tout à fait Marion. Seul le Nouvelliste publie aujourd'hui deux courts articles sur l'Asile, une commune durement touchée par le tremblement de terre dans le département d'Enip. Mais comme le constate l'éditorialiste du journal France Duval, la catastrophe ne fait plus l'actualité. Le pays a laissé de côté l'essentiel pour consacrer son attention à ce que le Nouvelliste qualifie de petite bataille politique. Et sur ce terrain aussi, la situation est pour le moins minée. Un Premier ministre par intérim, Ariel Henry, qui propose un accord de sortie de crise et tente de le faire signer par un maximum d'acteurs politiques, alors que ce même chef du gouvernement provisoire est soupçonné de lien avec l'un des principaux suspects dans l'assassinat du président Jovenel Moïse.
Et on va tenter d'y voir un peu plus clair. Comme tous les mardis, nous retrouvons à Port-au-Prince Godson Pierre, rédacteur en chef de l'agence haïtienne Alter Presse. Bonjour Godson, pour mieux comprendre, reprenons les choses depuis leur début. Que propose Ariel Henry pour sortir de la crise politique actuelle, Godson ?
Un gouvernement de consensus dirigé seulement par le Premier ministre, gouvernement à constituer dans les prochains jours en concertation avec les forces politiques et sociales signataires de son accord. Une autorité de contrôle est prévue, 23 membres à désigner par des organisations de la société civile auxquelles peuvent s'adjoindre le dernier tiers du Sénat, les derniers sénateurs restants. Les principaux chantiers de l'administration de Jovenel Moïse demeurent, notamment la réforme constitutionnelle initiée en violation de l'actuelle constitution. Cependant, changement du conseil électoral et disposition sur la question de la sécurité, il s'agit de créer les conditions pour la tenue des élections générales à la fin de l'année 2022.
Et alors, qui a signé cette proposition et que disent ces signatures du rapport de force politique en Haïti ?
Eh bien, ce sont essentiellement certains partis et regroupements qui étaient en opposition à l'ancien président Jovenel Moïse, ainsi que le parti gouvernemental PHTK. Ariel Henry a tweeté que 169 autres entités y ont également adhéré. Mais s'il faut parler de chiffres, un autre processus de concertation mis en place depuis quelques mois par la constitution, par la commission plutôt de la société civile de recherche d'une solution haïtienne à la crise, a déjà été paraffé par plus de 500 partis, organisations et personnalités.
Est-ce que cette proposition du Premier ministre par intérim a une chance d'aboutir ?
Le moins que l'on puisse dire est qu'il y a des obstacles majeurs, dont un consensus très peu suffisant, même pas au niveau des alliés traditionnels du pouvoir. Il y a encore du chemin à faire et Ariel Henry projette de rencontrer cette semaine la commission de dialogue de la société civile.
Et en même temps, Stéphanie Schuller l'évoquait, Ariel Henry est montré du doigt dans l'affaire de l'assassinat du président Moïse. Selon la justice haïtienne, le Premier ministre par intérim a eu deux conversations téléphoniques au petit matin après le meurtre avec l'un des suspects recherchés, Joseph Félix Badiou. La justice l'a d'ailleurs invité à venir s'expliquer, ce que Ariel Henry a refusé, dénonçant des manœuvres de diversion. Et hier, Godson, certains médias ont annoncé que le Premier ministre aurait limogé le ministre de la Justice.
Rien n'est officiel pour le moment. Le ministre Rockefeller Vincent avait en effet demandé au directeur de la police de ne pas obéir aux ordres du Premier ministre, chef du Conseil supérieur de la police.
Et pour résumer, Godson, à quoi assiste-t-on actuellement en Haïti ?
Ce qui se joue en Haïti aujourd'hui se résume en deux mots, continuité et rupture. Une bonne partie de la société est fatiguée de la gouvernance désastreuse des dernières années qui a amené à l'approfondissement de la crise et cela se traduit entre autres aujourd'hui par une violence inouïe des gangs. Le pays a besoin d'être pacifié et stabilisé. Et
merci Godson Pierre. Comme tous les mardis, l'actu haïtienne expliquée et décryptée par Godson Pierre, rédacteur en chef de l'agence haïtienne Alter Press. On vous retrouve Stéphanie Schiller pour la suite de votre revue de presse. Que disent les autres médias de cette crise politique et du projet d'accord proposé par Ariel Henry?
Eh bien, le quotidien Le National se veut aujourd'hui plutôt optimiste quand il écrit « La cérémonie de signature d'une entente politique organisée le samedi 11 septembre en la résidence du Premier ministre revêt une importance historique. Les observateurs étaient sceptiques tout le week-end sur les capacités réelles de la classe politique à s'entendre sur un quelconque accord. Ils l'ont finalement fait. Les forces politiques et la société civile semblent vouloir envoyer un message fort au monde que le dialogue national est possible », se félicite le journal. Les factions politiques ne peuvent plus continuer dans un pays en état de catastrophe à jouer à la roulette russe avec le destin tragique d'un peuple. Les Haïtiens ne sont pas intéressés à savoir quel est le texte d'accord le plus vertueux, mais quelles sont les bonnes volontés qui le sortiront de l'impasse.
Et dans une tribune publiée ce matin par le Nouvelliste, l'écrivain Lionel Trouillot défend un tout autre point de vue, Stéphanie.
Oui, l'auteur fustige ces politiques qui contrarient toute démarche démocratique parce qu'elles ne leur assurent ni visibilité, ni possibilité de cooptation. Si démocrate en est, la priorité est de travailler à établir les conditions pour la tenue de véritables élections, estime Lionel Trouillot, pour qui cela implique de rétablir un minimum de confiance dans les institutions. Cela implique un pouvoir de transition jouissant d'un minimum de crédibilité et né d'un large consensus démocratique. Si leader politique en est, poursuit encore l'écrivain, on ne peut pas passer son temps à n'agir qu'en fonction de ce que l'on peut gagner durant cette période intérimaire comme influence et pouvoir, en plaçant des pions à des postes ou en contrôlant les organes de la transition pour la défense de ses intérêts personnels ou de clans. Et Lionel Trouillon de conclure sur cette mise en garde sévère. Il y a des gens qui veulent gagner la transition justement parce qu'ils n'ont pas d'offre politique. Mais quoi qu'ils fassent, il faudra bien qu'un jour ce pays aille à de véritables élections.
Et Stéphanie Schuller pour la revue de presse. On vous retrouve également dans Décryptage ce soir. Vous parlerez de cette situation politique en Haïti, également de la situation post-séisme. Vous qui revenez de mission en Haïti, Décryptage à 19h10, temps universel, et 13h10 à Port-au-Prince. Les Californiens appelés aux urnes aujourd'hui pour maintenir ou non leur gouverneur démocrate. Ce dernier, Gavin Newsom, fait face à un recall, un référendum de révocation. C'est la quatrième fois qu'un tel référendum est organisé dans cet État. Il s'agit d'une procédure que des électeurs mécontents peuvent demander pour destituer leur actuel gouverneur. En 2003, ce même processus avait permis au républicain Arnold Schwarzenegger de conquérir la Californie. Et même si l'État est à majorité démocrate, le scrutin est pris très au sérieux. Le président Joe Biden était en Californie hier pour parler des incendies, mais surtout pour soutenir Gavin Newsom dans un meeting à Long Beach, près de Los Angeles. Reportage de notre correspondant Loïc Piala.
Le contraste est saisissant. Dans la file d'attente pour assister au meeting, quasiment que des gens masqués. De l'autre côté de la rue, des supporters bruyants de Donald Trump qui n'en portent pas. David est venu soutenir son gouverneur, conscient que ce recall, un scrutin local, a un écho national.
Ah, tout le pays en parle, c'est à cause du port du masque. D'autres États n'aiment pas qu'on porte masque. Les obligations, les restrictions.
Joe Biden, comme sa vice-présidente Kamala Harris la semaine dernière, ont fait le déplacement en Californie. Les démocrates ne peuvent pas se permettre de perdre l'État le plus riche et le plus peuplé de l'Union. Même si le Golden State est profondément progressiste, la mobilisation des républicains inquiète Tracy, sympathisante de Gavin Newsom.
Je suis relativement confiante, mais j'ai vu des choses se passer. Je pensais que Trump ne pourrait jamais être élu, et regardez. Et maintenant, je suis surprise de voir autant de ses sympathisants ici.
Joe Liberty, il ne veut pas donner son vrai nom, déambule brandissant une pancarte Recall Gavin Newsom. Il s'oppose à l'obligation vaccinale.
Nos libertés fondamentales sont violées par un gouvernement qui va trop loin. Il nous faut quelqu'un qui peut protéger notre droit inaliénable à disposer de notre corps.
En 2003, lors du dernier recall en Californie, le gouverneur démocrate avait été remplacé par Arnold Schwarzenegger. Il n'y a pas cette fois de républicain au profil aussi modéré. Loïc Piala, Long Beach, RFI.
Avant de passer au journal de l'Outre-mer, un mot sur ce rapport édifiant de l'ONG Global Witness. L'an dernier, 227 militants pour l'environnement ont été assassinés dans le monde. Le tiers l'ont été en Colombie. Le pays arrive en tête de ce macabre décompte, comme le confirme Laura Furones. Elle est membre de cette ONG.
Ce chiffre représente une moyenne de 4 personnes tuées chaque semaine au cours de toute l'année. C'est le pire que nous ayons enregistré depuis que nous avons commencé ce recensement. Plus la menace climatique devient incontrôlable et plus les personnes qui défendent l'environnement sont menacées. Cela signifie qu'il semble exister une connexion entre la crise climatique et la violence à l'égard de ces personnes, surtout dans les pays du Sud. Il y a un lien particulier entre ces attaques et des projets entrepreneuriaux, des projets qui sont par exemple liés à la déforestation, ce qui représente le plus grand nombre de cas pour cette année. On recense en 2020 23 attaques contre des personnes qui défendaient la forêt. Il y a aussi d'autres secteurs, comme par exemple le secteur hydroélectrique, les barrages ou d'autres projets d'infrastructure, ou les mines, l'agroalimentaire. Toutes ces activités économiques ont, selon nous, un lien avec au moins 30% des attaques recensées.
Laura Furones de l'ONG Global Witness, propos recueillis par Aïda Palao.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Benoît Ferrand. À la une de votre journal, les écoliers, collégiens et lycéens sont retournés en classe hier en Guadeloupe et en Martinique, Benoît.
Rentrée décalée d'une semaine pour cause de crise sanitaire, rentrée un peu spéciale, rentrée hybride avec un peu de présentiel et beaucoup de distanciel, ce qui pose évidemment le problème de la qualité de l'équipement informatique disponible dans les deux départements et dans les familles concernées. Qualité, on va dire, pas toujours évidente. Sébastien Gilles, la première Guadeloupe.
Partons du principe qu'une couverture en bon haut débit ou très haut débit est une condition essentielle pour un accès efficient à ces cours en distanciel. On estime que 20% des foyers guadeloupéens est en rupture numérique, c'est-à-dire sans accès possible à ces niveaux de débit. Théoriquement, une simple connexion DSL en cuivre avec un débit d'au moins 2 mégabits seconde permet de suivre ces cours dispensés dans les nouveaux espaces éducatifs numériques. Seulement, dans la pratique, la bande passante est souvent sollicitée simultanément au sein du foyer. Un débit en réception de 30 mégabits seconde devient alors nécessaire pour la stabilité de la connexion. On bascule dans le très haut débit. L'offre très haut débit se décline ici essentiellement à travers le déploiement de la fibre. Actuellement, sur les quelques 200 000 prises pour fibrer 100% du territoire, selon les derniers chiffres donnés, un peu plus de la moitié de l'objectif est réalisé.
Un mois, jour pour jour, après le tremblement de terre en Haïti, les opérations de solidarité se poursuivent en Martinique, car les besoins sont hélas évidemment toujours aussi criants. L'association Caraïbes Action Humanitaire a ainsi recueilli samedi dernier des dons qui seront expédiés par bateau le 20 septembre prochain. Reportage devant un supermarché en Martinique ce samedi avec Fabrice de Frémont.
Ça se passe très bien. Depuis ce matin, nous avons des dons.
40 bénévoles qui se relaient donc entre la collecte et la mise en paquet avant le départ. Jean-Daniel.
Je travaille en temps normal, mais dès que j'ai un moment de temps, j'investis soit dans l'association même pour préparer des repas avec les démunis, faire des courses.
Et chacun apporte un don.
J'aime bien participer quand même.
Oui, ça me touche beaucoup.
Il faut donner aux gens qui n'en ont pas parce qu'il faut les aider. Dans la vie actuelle, si on n'aide pas les autres, on n'arrive pas.
Une dame vient avec de nombreux sacs remplis de vêtements et de médicaments.
Il y a pour les bébés, pour les personnes âgées et tout, voilà.
Une autre a entendu hier sur les ondes qu'il y avait donc cette collecte et elle a fait le déplacement rien que pour ça, afin de donner un cabas entier à l'association.
C'est tout prêt.
On le voit, la générosité des Martiniquais n'est plus à faire pour venir en aide aux plus démunis, que ce soit à la Martinique ou dans les îles voisines de la Caraïbe.
Un reportage Fabrice de Frémont. Bon après-midi Marion, à demain.
Et merci Benoît Ferrand pour le journal des Outre-mer. À demain. Ainsi s'achève ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à Hélène Avril à la réalisation, à Véronique Guémard à la rédaction en chef. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Rendez-vous à 13h10 en temps universel.
Du 28 août au 12 septembre.